Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bernard Pivot, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes au Théâtre de Die, dans la loge avec Bernard Pivot, qu'on nous avons le plaisir de pouvoir un petit peu interroger. Bernard Pivot, vous avez présenté pendant presque 30 ans des émissions à la télévision. Et aujourd'hui vous êtes avec nous pour parler un petit peu du spectacle que vous allez jouer ce soir.
Oui, je suis très content d'être à Die pour un spectacle que je joue 3 fois par mois, pas plus, parce que j'ai pas le temps. Et puis pour garder la fraîcheur, pour garder le plaisir. Et quand les plaisirs sont trop fréquents, ils deviennent parfois un peu lourds. Donc il faut que ce spectacle garde sa légèreté. Donc voilà, je suis très content d'être à Die ce soir pour un spectacle. J'espère que les gens seront contents à la fin. En règle générale, les gens, quand ils quittent la salle, ils sont heureux. Ils sont heureux parce que j'espère leur communiquer un peu de bonheur, voilà, tout simplement.
Vous retracez quelques décennies de rencontres littéraires.
Alors, oui, il y a trois. Je le dis d'ailleurs au début du spectacle, il y a trois sortes de textes qui sont mélangés, bien entendu. Il y a des textes autobiographiques. Par exemple, je pense qu'ici, ils vont être très intéressés parce que je raconte mes vendanges dans le Beaujolais. Il y a des textes dans lesquels je raconte mes rencontres avec des grands écrivains comme Marguerite Duras ou Nabokov ou Simenon. Ainsi fut fait en direct le 30 mai 1975. Il avait demandé qu'on lui servît un whisky d'une certaine marque. Et afin de ne pas donner un mauvais exemple à ceux qui regarderaient l'émission, il avait exigé que le whisky fût dans une théière. Je m'entends encore lui dire « Encore un peu de thé, monsieur Nabokov. » Et puis des textes dans lesquels je fais l'éloge de certains mots ou expressions qui sont amusants ou qui tombent en désuétude. Donc c'est ce mélange qui raconte une histoire, au fond, qui est la mienne.
Si aujourd'hui vous présentiez une émission, quel écrivain d'aujourd'hui vous n'aimeriez pas rater ?
Y a d'abord tous les écrivains avec lesquels j'ai vieilli, c'est-à-dire aussi bien Le Clésio, Modiano, Tournier, tous ces gens-là. Mais parmi les jeunes, les plus jeunes des générations suivantes, je pense que je n'aurais pas raté Méris de Keringal, par exemple, pour Réparer les vivants, qui est un formidable roman. Et puis, je n'aurais pas raté aussi des gens comme Toussaint, il est déjà d'un certain âge. Enfin, c'est très difficile de répondre à cette question-là parce que, évidemment, les noms ne vous viennent pas immédiatement à l'esprit. Mais souvent, d'ailleurs, ce qui me plaisait dans mes émissions, c'était, notamment en septembre, de faire venir des auteurs inconnus qui publiaient leur premier roman et puis d'en inviter 4, 5, 6. Souvent, je me disais peut-être que sur les 4, 5, 6, il y en a qui deviendront des écrivains très connus, célèbres. Et c'est comme ça qu'ont commencé des gens comme Marc Duguin ou bien Philippe Claudel.
Vous n'avez pas peur d'inviter des personnages avec du caractère, voire qui créent des situations un peu compliquées sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez de Virginie Despentes, par exemple ?
Virginie Despentes, on vient de les lire à l'Académie Goncourt. Donc je ne vais pas vous en dire du mal, puisque Virginie Despentes, elle représente un aspect de la littérature d'aujourd'hui qui est tout à fait novateur. Elle raconte des histoires d'une société qui n'est pas la mienne, mais dans laquelle je retrouve des personnages. Des personnages vrais, des personnages d'aujourd'hui, des personnages du cinéma. Et puis surtout, ce que j'apprécie chez elle, c'est son style. Elle a un style, évidemment, qui ne correspond pas à Chateaubriand ou à Lamartine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle a une énergie, une envie de cerner la vérité, de dire des choses même qui peuvent choquer. parfois même beaucoup, beaucoup choqué. Mais c'est ça, un écrivain, c'est celui ou celle qui, justement, n'a pas peur d'ébouriffer les gens et même de les choquer profondément.
Bernard Pivot, moi je vous ai vu depuis mon enfance à la télévision avec Apostrophe, une émission incontournable. Et ensuite vous avez œuvré aussi pour la langue française, avec la dictée par exemple. Et quel est votre sentiment sur votre bilan sur ce que vous avez fait par rapport à la langue française ?
Oh, vous savez, je me suis toujours considéré comme un serviteur des mots. Et de la langue. Mais c'est fatal quand on est journaliste, quand on présente une émission littéraire, quand on invite des écrivains. Fatalement, on ne peut être qu'amoureux de la langue dans laquelle il s'exprime et dans laquelle je m'exprime. Je vois pas comment on peut être critique avec cette langue. Alors il se trouve que par un hasard très curieux, le premier livre que j'ai lu, c'est un dictionnaire. C'était un petit Larousse pendant la guerre. Et donc le paradoxe avec moi, c'est que j'ai aimé les mots avant la littérature et que j'ai... le premier livre que j'ai lu, c'est un dictionnaire et non pas un roman, même un roman de la bibliothèque verte ou de la bibliothèque rose. Donc, donc l'amour des mots, dont je parle d'ailleurs dans mon spectacle abondamment, l'amour des mots m'est venu très jeune et je pense que la carrière qui a été la mienne, à laquelle vous faites allusion, je pense qu'elle n'aurait pas été la même si je n'avais pas eu cet amour des mots dès mon enfance. Fragonard. Alors, ne cherchez pas ce mot fragonard dans vos dictionnaires, car il n'y est pas. Ce mot a été inventé par Colette, écrivain que j'ai toujours beaucoup apprécié, et surtout que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai hérité de son couvert à l'Académie Goncourt. Je me suis donc servi avec la fourchette. Je mange avec la fourchette et le couteau dont se servait Colette il y a maintenant quelques dizaines d'années. Donc, ce mot, Colette l'a inventé, fragonard, pour désigner une femme sensuelle avec des rondeurs telles que Fragonard les a peintes dans ses tableaux libertins et dans ses scènes galantes. Alors, c'est ça le génie de l'écrivain. Colette n'a employé ce mot qu'une seule fois, dans une chronique de Marianne en 1932, comme ça, au fil de la plume, elle l'a inventé, que nous n'avons jamais réutilisé. Alors, je vais vous lire la phrase de Colette, où elle a inventé ce mot fragonard. « Telle beauté que nous avons, nous, ces aînés de 15 ou 20 ans, connus délicieusement Camuse, la lèvre courte, une fossette à chaque coin de bouche, et fragonard comme pas une, nous la retrouvons grandie, osseuse, avec un profil de cheval luxembourgeois. Ah, qu'elles étaient pulpeuses et lascives, nos fragonards d'une nuit, d'un été ou d'une année. La chambre exhalait des odeurs de sucre, jaillies des grottes, de peau frottée à l'impatience, puis caressées au savoir d'amour exalté par l'amour. Un dernier coup d'œil avant de tirer la porte sur les draps chiffonnés à la fragonard.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui si on vous proposait de faire de la télé ? Qu'est-ce qui vous correspondrait dans la télé d'aujourd'hui, là, maintenant ?
Alors franchement, je n'y vois pas beaucoup. Écoutez, la seule chose que je sais faire, c'est interviewer des écrivains ou alors des hommes de spectacle. Donc fatalement, je ne me vois pas faire une autre émission que culturelle. Et pourquoi pas littéraire. Mais enfin, mon temps est passé, mon envie a décliné. Donc aujourd'hui, je ne me vois pas à la télévision. Ça me paraît... Il faut, comme disent les boxeurs, il ne faut pas faire le combat de trop. D'ailleurs, je suis parti de moi-même, la télévision. On ne m'a pas fichu à la porte. J'ai dit, allez, j'ai fait mon temps, j'ai fait 28 ans d'émissions culturelles. Eh bien, je pars. Et il vaut mieux d'ailleurs partir en laissant des regrets plutôt qu'en recevant un coup de pied dans les fesses du directeur. Donc, revenir aujourd'hui à la télévision, c'est une chose qui m'est totalement étrangère. Mais lors même que je serais poussé dans les reins pour de nouveau faire de la télévision, je pense que je n'échapperais pas à mon destin et ce serait une émission culturelle.
Ça ne veut quand même pas dire qu'à 80 ans, aujourd'hui, vous n'avez plus de projet.
Ah non, j'ai beaucoup de projets. D'abord, des projets de livres, puisque pendant très longtemps, je n'ai pas écrit de livres, puisque j'invitais des auteurs par Par déontologie, il me semblait que ce n'était pas possible à la fois de publier des livres et de faire la critique de ceux des autres. Donc maintenant, j'écris des livres. C'est un plaisir. J'ai changé de vie. Vous savez qu'une fois, quand j'ai quitté la télévision, j'ai changé de vie. Donc je me suis mis à écrire des livres. Je suis entré à l'Académie Goncourt. Je fais du théâtre. Donc oui, ma vie a complètement basculé. Et cette autre vie qui a commencé il y a maintenant un peu plus de... Enfin, 12 ans, 13 ans, 14 ans, eh bien, cette vie-là est très agréable et elle me satisfait autant que la première.
Vous aimez vous rendre en province à la rencontre de petits théâtres et de gens différents, peut-être, d'un public parisien que vous avez peut-être davantage fréquenté pendant longtemps ?
Oui, alors, mon ami François Perrier, qui est mort malheureusement il y a déjà bien longtemps, et Michel Piccoli, qui est un de mes amis, me disent toujours que lorsqu'il joue au théâtre, que le public n'est jamais le même chaque soir. Alors, je ne peux pas dire que ma connaissance du public et du théâtre n'est pas assez fine pour ressentir la même chose qu'eux, mais quand même, je suis maintenant assez dégrossi en matière de spectacle, pour ne pas me rendre compte que le jour où je suis allé à Monaco, il n'y avait pas la même, le même public et je n'ai pas reçu le même accueil que lorsque je suis allé, par exemple, il n'y a pas longtemps, à Romorantin, dans une ville de la Sologne, qui était très, 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 très chaleureux. Voilà. Donc c'est différent. Le public du Nord, le public belge, je vais beaucoup en Belgique. Parce que mon émission avait beaucoup d'impact en Belgique. Et donc les Belges aussi sont très chaleureux, très très vivants, ils aiment vraiment. Parfois ils applaudissent même dans des endroits où généralement les autres n'applaudissent pas. Vous voyez, c'est très curieux. Non. Alors c'est vrai, donc je suis pas assez compétent encore une fois pour répondre avec finesse à votre question, mais quand même je sens très bien que c'est agréable d'aller dans la province et de découvrir des publics que je ne connais pas et des villes que je ne connais pas.
Est-ce que vous pensez que la télévision est semblable à celle que vous aviez connue vous à l'époque?
Ah ben non, tout corps vivant évolue, y compris la langue française. Donc la télévision, elle a beaucoup changé par rapport à celle dans laquelle j'ai travaillé pendant 32 ans. Ah non, bien sûr, heureusement qu'elle a changé. Une télévision pétrifiée, c'est une télévision qui serait ridicule. Donc elle évolue en bien et elle évolue en moins bien, hein, c'est évident. Alors il y a par exemple, je trouve que la télévision d'aujourd'hui est incomparable par rapport à celle d'hier sur l'actualité, sur le journal, sur les reportages. Aujourd'hui, il y a une sorte de liberté, une sorte de volonté de découvrir des choses. C'est vraiment très, très, très... Là, la télévision d'aujourd'hui est supérieure à celle d'hier. En revanche, dans le domaine culturel, qui est mon domaine, je pense qu'aujourd'hui, elle est inférieure à ce qu'elle a été il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est évident parce qu'aujourd'hui, l'audimat règne sur toutes les chaînes et il faut toujours avoir le maximum de public à toute heure du jour et de la nuit. Et donc pour cela, la culture n'est pas la meilleure attraction. Ça sera plutôt le sport, la fiction, les variétés, les jeux, voilà, donc qui ont beaucoup plus d'importance aujourd'hui qu'ils n'en avaient à l'époque. En revanche, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, la fiction est meilleure qu'il y a 20 ou 30 ans. La fiction a bénéficié d'abord de la technique nouvelle, des techniques nouvelles, et du cinéma. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de différence entre le cinéma et les téléfilms aujourd'hui qu'il y a 30 ans, quand quand on voyait les films et les téléfilms, vraiment, ils étaient très, très différents les uns des autres. Aujourd'hui, beaucoup moins. Parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans la fiction, à la télévision, mais aussi on a investi beaucoup d'intelligence et de savoir-faire.
Et la culture, certes, elle a peut-être beaucoup de lacunes au niveau de la télévision, mais est-ce que vous pensez qu'il serait possible de ramener cette culture au sein de la télévision et d'élever un peu l'esprit du public?
Non, c'est très difficile parce que, comme je vous l'ai dit, l'audimat règne sur toutes les chaînes et vous ne pouvez pas... La culture, elle est très tardive sur une grande chaîne, donc elle va passer après 23 heures, ou soit si elle est sur une petite chaîne, elle peut passer à 20h, à 21h, par exemple comme la Grande Librairie, mais sur une chaîne de moindre audience que les grandes chaînes de télévision. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre en prime time, comme on dit, vous ne pouvez pas mettre une émission culturelle. C'est impossible, sur une grande chaîne.
Vos audiences avec apostrophe, elles étaient bonnes, elles étaient très bonnes.
Ah ben oui, elles étaient très bonnes, parce qu'il y avait entre 1 et 3 millions de téléspectateurs chaque vendredi. Donc c'était énorme, bien sûr.
C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le problème de l'audimat, alors, parce qu'à l'époque, on avait l'audimat pour ces programmes. Aujourd'hui, c'est pas qu'on tolérait des émissions avec moins d'audimat et qu'on les conservait, c'est qu'aujourd'hui, vous pensez que des émissions comme ça n'auraient pas d'audimat du tout ?
Ah si, il n'y a pas d'émissions culturelles. Vous avez toujours quand même la Grande Librairie a un certain public qui ne peut pas être comparé à celui d'Apostrophe parce que les temps ont changé, parce que la concurrence est beaucoup plus sévère, elle est plus nombreuse. Mais bien sûr que si. Mais encore une fois, il faut toujours faire le maximum d'audience toutes les heures du jour et de la nuit. Donc fatalement, la culture sera toujours sur les grandes chaînes, encore une fois, reléguée à des heures peu chrétiennes.
Une question peut-être ?
Oui, sur vos livres. Vous pouvez nous dévoiler le sujet de votre prochain roman ?
Je n'écris pas de roman. Hein.
Non, mais...
hein. Mon livre, il va sortir. J'ai écrit un autre spectacle que celui qui va être entendu ce soir, qui s'appelle « Au secours, les mots m'ont mangé ». Et donc le texte paraîtra aux éditions Alary, à 2 L A R Y. Au mois d'avril, avec le DVD d'enregistrement. Voilà. Alors c'est un spectacle, c'est un texte très loufoque, hein, où je raconte la vie d'un écrivain depuis sa naissance, quand il regrette de ne pas être le premier bébé à parler, jusqu'à sa comparution devant Dieu, où Dieu, qui a un peu vieilli, le confond avec Modiano. Oui.
Et voilà. Pourquoi pas de roman ? J'ai dit, vous avez trop interviewé
non,
de...
Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas moi. Je ne sais pas écrire des romans, je ne sais pas faire.
Un regret de ce que vous auriez voulu faire à la télévision et que vous n'avez pas pu ?
Ah non, pas du tout. Alors ça, j'ai aucun regret. Et j'ai toujours fait à la télévision ce que je voulais. Je n'ai jamais ni de censure, ni d'autocensure. Et non, absolument pas. Alors ça, vraiment, le regret, je n'en ai pas. Vraiment. Et peut-être qu'il y a peu d'animateurs de télévision, de journalistes de télévision qui peuvent le dire, mais en tout cas, moi, j'ai aucun regret. Vraiment. Je ne vois pas. J'ai toujours travaillé dans les meilleures conditions possibles avec des collaborateurs qui étaient excellents et avec la confiance des dirigeants qui se sont succédés pendant 28 ans à la direction de la deuxième chaîne. Donc franchement, non. Je réponds avec beaucoup de force non à votre question.
Eh bien, Bernard Pivot, merci.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Voilà. Merci. De tous les mots en cinq lettres qui expriment du sentiment, cœur, amour, aimer, amant, bonté, pitié, etc. Merci, plus fréquemment employé. On dit merci pour un oui. Et même pour un non, non merci. On exprime sa gratitude à propos de tout et de rien. Merci pour tout. Ce n'était rien, merci. Il y a les pingres, je veux simplement vous dire merci. Et les généreux, merci mille fois, encore plus munificent. Merci, merci, mille fois merci. La reconnaissance peut être étriquée ou ample, un grand merci. Dans notre société, on croit à la surenchère. Un modeste merci ne suffit plus. Il faut lui donner du volume. Il faut l'accompagner d'un autre mot qui doit procurer à celui à qui va le remerciement le sentiment que la personne obligée est vraiment très, très obligée. C'est pourquoi l'on dit « merci bien », « merci, merci », « merci à vous »,
Merci infiniment. Merci beaucoup. Aucun animateur de radio ou de télévision ne prend congé de ses interlocuteurs sans les remercier beaucoup, et parfois même beaucoup, beaucoup. Le merci beaucoup est devenu si banal qu'il va falloir trouver un renchérissement dans les mots avec lesquels le service ou le compliment sera payé. On peut attendre les propositions. Dieu merci, il y en aura. Merci d'avance. On nous rebat les oreilles, on nous bouche la vue, on nous empeste, on nous pollue, on nous détourne, on nous fait attendre, on nous demande de revenir, on nous refoule, on nous menace, on nous sollicite, on nous met en garde, on nous pompe l'air, on nous casse les couilles, et chaque fois le même panneau, merci de votre compréhension. Cette formule, si souvent reproduite et affichée, pour qu'elle en devient insupportable, nous pourrait-on en changer de temps en temps? Merci de votre compréhension et surtout, merci de votre attention. Merci.